One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD. Bonjour amis auditeurs. Salut Ariane.
Salut Philippe.
Salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça y est, on y est donc.
Ouais, ça y est.
Ça y est quoi ? Printemps.
Oui, je crois que c'est le jour du printemps en plus. C'est le jour du printemps. On est le jeudi 22, c'est ça ?
C'était pas hier ?
Mais non, on est peut-être le vendredi, hein.
Oui, on est peut-être aussi...
Peut-être le vendredi 10h sur RPH,
c'est
ou
ça.
Le dimanche soir en rediff,
voilà.
Sur Divergence,
voilà.
Sur RPH,
donc,
qui sait.
Mais de toute façon, on s'en fout, on est au printemps.
Voilà.
Élection présidentielle, quatrième et dernière émission de ce cycle consacré, donc, pas seulement aux présidentielles, on a dit aux élections en général. La semaine dernière, on a parlé instruction civique.
Wouhou !
Réforme territoriale. C'était super fun. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un soutien au choix de cette prochaine
ouais,
élection.
Pro-choice.
donc, comment choisir ? Parce que c'est pas évident. La campagne est maintenant bien avancée. Je ne sais pas si les choix de notre ami auditeur sont faits, mais en tous les cas, nous, on a certains conseils à lui prodiguer.
Allez, ouais, d'accord.
On prodigue. Bah, on commence par toi, Ghislain. Tu nous as dégoté quoi
ben Moi, j'écoute une autre radio concurrente et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Radio Nova.
Oui.
Et l'autre jour, donc, sur mon petit vélo, j'ai écouté Edoui Plenel, qui nous parlait sur Radio Nova, et il avait une nouvelle incroyable, la droite, bah, il n'y en a plus.
Non.
Je t'assure.
Comment
donc,
ça
bah oui, mais je t'assure, il n'y a plus de droite.
Il va nous expliquer ça, j'espère.
Bah, j'espère aussi, oui.
On écoute.
La droite a disparu. Je vous assure, la droite a disparu. J'explique. C'est quoi la droite, jusqu'à aujourd'hui? On dit la droite républicaine. Au fond, c'est la droite qui est issue de la ruse gaulliste où De Gaulle, dans sa dissidence et dans son pari fou, a sauvé la droite d'elle-même en permettant à la France d'être à la table des vainqueurs et pas des vaincus. Il a fait le programme du Conseil national de la résistance, ou plutôt il l'a accepté, des gaullistes aux communistes. Et donc, nous vivions jusqu'à aujourd'hui avec une droite républicaine. Elle était peut-être conservatrice, peut-être antisociale, mais elle avait des bons restes, elle se bonifiait parfois, elle résistait à l'Empire américain. Eh bien, cette droite-là a disparu. Et ça, personne ne le voit. Qu'est-ce qu'on entend dire ? Il y a un tournant droitier de Nicolas Sarkozy, une manœuvre tactique vis-à-vis du Front National. Mais non, pas du tout. C'est la vérité du sarkozysme. Le sarkozysme avait annoncé une rupture. Eh bien, la rupture a eu lieu en 5 ans. Rupture par rapport à sa propre famille. C'est la deuxième mort du gaullisme. Le sarkozysme n'est pas la droite. C'est l'émergence d'une nouvelle droite. Une droite extrême. Une droite qui renoue avec ce que fut la droite pendant la première moitié du XXe siècle. Une droite anti-républicaine. Une droite qui refusait le principe d'égalité qui est au cœur de l'espérance républicaine. Car l'égalité, c'est la possibilité de lutter, d'avoir des droits, de ne pas être dans la fatalité, dans l'immobilisme, dans la résignation. Et cette droite anti-républicaine, elle combattait l'égalité parce qu'elle voulait que l'ordre des choses reste. Et du coup, quelle était son invention ? Car c'était une droite inventive, intellectuelle, avec des idéologues subtils, Charles Maurras, Maurice Barrès. Et que disait-il ? Il disait qu'il fallait une révolution conservatrice face aux Lumières, face à l'esprit qui a fondé la République, il fallait un autre mouvement, une autre force. Et cette autre force, c'était de nous ramener, au fond, à nos plaisirs personnels, à notre enrichissement personnel, à notre jouissance personnelle face aux autres. Et donc, du coup, ce refus de l'égalité allait de pair avec l'idée de l'inégalité, de la hiérarchie. Et leur refrain, c'était quoi ? C'était la xénophobie, les étrangers. C'était l'idée qu'il y avait des civilisations supérieures. Et c'était l'antisémitisme. Écoutez, aujourd'hui, en l'an 2012, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez exactement ce que M. Maurice Barrès, en 1893, écrit. Il a été député boulangiste, et puis du coup, il va où être candidat en 1893 ? Écoutez, à Neuilly ! Oui, à Neuilly ! Et que dit-il à Neuilly ? Il fait une brochure qui s'intitule « Contre les étrangers ». Vous avez entendu cette semaine un monsieur à la télévision dire « Il y a trop d'étrangers en France ?» Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Les civilisations supérieures ? Monsieur Guéant, vous l'avez entendu ? Qu'est-ce qui est visé ? Désormais, à la place des Juifs, c'est nos compatriotes de culture musulmane, parce que c'est eux les boucs émissaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas barguigner dans cette élection. Toute sensibilité confondue. Il faut une défaite humiliante pour prendre la force de faire rentrer, là où elle n'aurait jamais dû rester, minoritaire, marginale, cette droite extrême auquel le sarkozysme a donné droit de cité.
Alors moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Ben non, je trouve que c'est clair et que c'est bien fait.
Mmh. Ariane ?
Pas mieux.
Après ça, on vous dira qu'il n'y a pas de grande différence entre la gauche et la droite. Et ben manifestement, si.
Ben voilà, donc ça élimine au moins deux choix.
Ariane, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, à ce sujet ?
J'ai essayé. Alors, d'abord, on me préparait l'émission, tout ça, alors je me dis, bon... Si on est sérieux, on va lire les programmes. Après, je me suis dit, mais bon, à quoi ça sert ? Les programmes, c'est comme les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. En plus, c'est plein d'éléments de langage que nous avons dénoncés précédemment ce mois-ci et plus tôt encore.
Quels que soient les partis, ça ?
Beaucoup, quand même. Oui. Il y a énormément d'expressions, plein d'oxymores douteux. Et quand il n'y en a pas, du coup, tu ne peux pas comparer. C'est difficile de se baser là-dessus. Après, bon, les débats. Alors, c'est une épreuve rhétorique, et puis bon, c'est ce qu'on a un peu... c'est pas parce que on... Bon, moi, ça m'énerve de toute façon, écraser l'autre, etc. J'aime bien les bons mots, mais voilà, c'est organisé d'une façon telle que même moi, je vais attendre le bon truc, ou oui, un rapport de domination, et ça m'écœure, en fait, de rechercher ça. Donc, bon, ça me va pas non plus.
Et on cherche un gagnant à la fin, qui est pas forcément un gagnant sur le fond, mais voilà. Effectivement sur...
Soit je reste insatisfaite, parce que justement, ça a pas assez parlé du fond, soit j'ai l'impression d'avoir un plaisir pervers à regarder ça. Enfin, bon, donc non, ça me va pas non plus. Mmh. Alors... On s'est pas mal fait bassiner aussi par les appels et autres manifestes. Mon côté féministe, celui qui a le plus été médiatisé, c'est pas mon préféré. Donc déjà, ça m'a... Et puis bon, on a vu ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot sur la signature. Est-ce que ça a pu donner ? Donc pareil, c'est pas efficace. J'ai essayé même les tests sur Internet. Alors,
Internet.
Ça c'est drôle.
Je vote pour qui en 2012.fr ? Alors malheureusement, il n'y a pas assez de questions, donc il y a plein de propositions qui viennent ensemble sur deux, soi-disant deux thèmes seulement, mais en fait c'est beaucoup trop vague, donc c'est inopérant. C'est dommage d'ailleurs, parce que moi, ce qui aurait pu marcher pour moi peut-être, c'est pouvoir choisir dans tous les thèmes les propositions que j'ai envie de retenir.
Ouais.
Et à la fin, qu'ils me disent dans quel programme on les retrouve. Éventuellement, ça aurait pu m'aider, mais bon. Il y a un comparateur que j'ai trouvé pas inintéressant, c'est vox.org, donc voxe.org. Et tu peux comparer deux programmes sur des thèmes. Mais bon, il y a des manques.
Oui, il y a plein de manques. Moi, j'y suis allé. Ouais, il y a plein de manques. C'est-à-dire, il y a des trucs, des thèmes sur lesquels on te met les propositions de l'un, mais on n'a pas les propositions de l'autre. Et tout ça. Donc, en fait, tu ne compares pas grand-chose.
Est-ce que c'est une base de données qui est réenrichie à chaque fois, parce que,
C'est participatif. Donc, si tu récupères la donnée, tu peux leur proposer. D'accord. Il la vérifie. Voilà. Mmh. Et donc, voilà, j'arrivais toujours pas à choisir. Alors, je vous fais un petit intérêt. Je ne peux pas résister.
À quoi ?
Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant, je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Et quand je dors, je rêve d'un autre monde, alors je voterai Eva Jolie !
Ah bah toi carrément, c'est tu pour dis pour qui tu vas voter. Ah ouais, et pourquoi alors? Pourquoi?
Parce que le... il y a quand même des programmes dans lesquels on retrouve une volonté d'une autre organisation des espaces sociaux. Et c'était le cas de plusieurs programmes qui pouvaient me tenter. Mais voilà, on est quand même dans les SLP, Salut les PD. Et les Verts, c'est quand même ceux qui, historiquement, ont un regard sur l'ouverture du mariage à tous, la parentalité, et puis aussi les questions de genre. Ça n'a rien à voir, leur avancement sur ces questions-là, par rapport aux autres programmes, quoi.
On est d'accord. Alors, effectivement, ça, c'est des questions qui peuvent nous concerner plus directement. Mais en même temps, alors, moi, je n'ai pas décidé encore, mais ceci dit, c'est vrai que je trouve que ce programme-là, parmi les autres, c'est quand même celui qui prend, de mon point de vue, le mieux en compte toutes les évolutions récentes de nos sociétés occidentales, en tous les cas, quoi, et qui a l'air, encore une fois, à mon avis, de proposer un véritable projet de société avec prise en compte justement des enjeux actuels et des évolutions sociales, économiques nécessaires.
Ouais, moi je suis d'accord aussi. Mm-hmm. Ouais, après l'avoir lu, tu te rends compte qu'en fait c'est des gens qui sont à l'écoute du monde dans lequel ils vivent, quoi, et qui n'ont pas les barrières idéologiques et religieuses que les autres peuvent encore avoir.
Mm-hmm. Puis c'est aussi, quand tu dis le monde, c'est les composantes, c'est les personnes.
Ouais.
Parce qu'il y en a d'autres qui nous disent le monde il est comme ci comme ça, et on nous parle que de crise financière et d'argent, quoi. Mmh. Les gens sont finalement complètement absents d'un certain nombre de discours, et en fait c'est choquant.
Bah, tu as l'impression qu'ils remettent l'humain à sa place, c'est-à-dire au centre.
Alors oui, enfin on nous parle que crise financière, argent. En même temps, c'est des questions qui sont cruciales. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, parce que justement elles conditionnent aujourd'hui plein de choses, quoi. Et l'important, c'est effectivement sans doute de remettre au milieu, au centre, à revenir à l'essentiel, ce qui est effectivement les questions humaines, et voilà ce qui n'est malheureusement pas fait dans la plupart des programmes qu'on nous donne à voir, si tant est qu'on nous donne véritablement à voir des programmes.
On nous donne plutôt des propositions et qui découlent toutes de ça, c'est-à-dire c'est l'économie qui prime d'abord, c'est le bien-être des billets de banque avant le bien-être des êtres humains.
On fait une pause musicale et puis on y revient par notamment par les économistes atterrés, parce que moi j'ai envie qu'on en reparle, on en a déjà parlé.
Ouais, moi, d'accord, ok.
Alors ça, c'est encore plus vieux que la pause musicale de la semaine dernière, mais 25 ans.
On va finir par Rina Ketty et tout ça.
On vous le promet pour juin, ça. C'était Dead or Alive, You Spin Me Round. Alors un remix, je sais pas lequel, mais en fait, c'est toujours aussi bien, ça.
Ouais, c'est bien. C'est toute ma jeunesse.
Ariane n'était pas née, mais bon.
À vérifier.
Alors, on va reparler des économistes atterrés. Quand est-ce qu'on en avait parlé ? Je crois que c'était au début de l'année qu'on avait fait...
Ouais, c'est l'année révolutionnaire.
L'année révolutionnaire. Alors, les économistes atterrés, ils essayent tant bien que mal de se faire entendre. C'est un peu l'alternative à la pensée dominante qui truste toutes les institutions aujourd'hui en matière d'économie politique, à savoir la doctrine néo-classique, néo-libérale. Et eux, voilà, ils sont persuadés que les politiques menées aujourd'hui ne sont pas les bonnes, notamment au niveau de l'Europe. Le plus simple, c'est... Alors, ils ont un site, ils sont très faciles à trouver
sur Facebook,
sur Internet. Ils sont partout, mais encore faut-il aller les chercher, parce que pour ce qui est des médias télévisés, radio et même dans la presse, Le Monde, Libé, ils ne sont pas forcément très, 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 on va dire, accessibles. En tous les cas, ce n'est pas une presse qui est à leur écoute. Donc, voilà, ils ont créé leur propre moyen de diffusion, à savoir site Internet, Facebook.
Et ils multiplient les conférences quand même.
On écoute un son et puis on en reparle derrière.
Et avec nous pour parler de la crise de la dette en Europe, Benjamin Coria. Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc économiste, vous faites partie de ce collectif des économistes atterrés, auteur collectivement donc de plusieurs ouvrages, dont 20 ans d'aveuglement et également Changer d'économie. Ça vient de sortir, janvier 2012, aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors dites-nous en quoi consiste ce collectif exactement ?
Si vous voulez, ce collectif est né il y a 2 ans, au moment de l'explosion en plein vol de la crise financière. On était un certain nombre d'économistes à l'avoir largement annoncé, et on se disait, on va repasser aux choses sérieuses. Et puis on a été tout à fait catastrophés, et donc atterrés, c'est pour ça qu'on a choisi ce mot, parce que ce qu'on a vu, c'est que les idées, la vision néolibérale, au lieu de reculer, avançaient et prenaient le contrôle des budgets publics, en particulier dans le cas de la Grèce. L'explosion de la crise grecque fait partie de la naissance de notre mouvement.
Alors justement, cette politique ne condamne-t-elle pas la croissance, puisque en Grèce, on voit, ils n'ont pas le choix, ils ont voté ce plan drastique, mais derrière, l'économie est en pleine récession, est-ce que ça ne va pas les condamner finalement ?
Ben oui, c'est une potion magique qui est en train de tuer le malade. On fait voter la Grèce avec un pistolet sur la tempe, en disant voilà, c'est ça ou le chaos. Mais en fait, la formule qui consiste à couper les dépenses publiques, à attaquer le système de santé...
Va forcément atteindre la croissance.
Là, déjà atteinte. On en est au troisième plan grec. Les deux précédents se sont traduits par davantage de récession, davantage de crise des dépenses publiques et une augmentation de la dette par rapport au PIB. Donc, on n'est absolument pas dans la bonne solution.
Ah oui, alors vous dites que justement, la zone euro au bord de l'implosion, la stratégie européenne finalement adoptée pour redresser la situation est atterrante selon vous. Alors, dites-nous exactement pourquoi.
Mais pourquoi ? Parce que si on veut avoir une zone euro et par exemple, les économistes atterrés, majoritairement, on pense qu'il faut une zone euro, que ça soit bien clair. Il faut installer un minimum de mécanismes de solidarité entre les deux différents pays. Il faut instaurer un minimum de politique macroéconomique. Ça veut dire que les pays en excédent, comme l'Allemagne, etc., doivent relancer, ne serait-ce que chez eux, ce que d'ailleurs demandent les syndicats et les salariés allemands pour assurer la reprise dans les autres pays. On ne peut pas être la plus grande économie de la zone euro, casser sa demande intérieure et vivre sur l'export au détriment des autres et s'étonner ensuite que la zone explose.
Oui, finalement, ce que vous dénoncez, c'est la financialisation de l'économie.
Absolument, parce que un des problèmes qu'on a avec la Grèce et la zone euro en général, c'est qu'on a mis la dette publique dans les mains des marchés financiers. Seuls les marchés financiers peuvent acheter de la dette publique. D'où le fait qu'ils spéculent là-dessus. Alors que dans l'ensemble des autres grands pays, Japon, États-Unis, Angleterre, c'est la banque centrale qui achète les dettes publiques. Donc à partir de ce moment-là, elle peut l'acheter à des taux bas et permettre des politiques de croissance qui permettent l'équilibre.
Donc vous suggérez effectivement plus de solidarité inter-État en sein de l'Europe.
Absolument, c'est indispensable. Il faut plus de solidarité, plus de transferts. Il faut des fonds structurels pour permettre aux pays en retard de rattraper les pays en avance. Et il faut surtout que la Banque centrale dise aux marchés financiers « Allez jouer ailleurs, la spéculation c'est fini, les budgets publics c'est sérieux, on s'en occupe. »
Donc finalement, ce que vous souhaitez une société plus égalitaire, on va dire, plus sobre, moins stressée, hein, c'est, je vous cite.
Absolument.
C'est pas un peu illusoire tout de même ?
Non, c'est pas illusoire, parce que le réalisme désormais de ce côté-là, au sens où, en poursuivant dans ces politiques néolibérales et en essayant maintenant de les faire entrer dans les budgets publics, on va directement à la catastrophe. Regardez la Grèce. On est en train d'organiser le chaos social avec ces mesures qui, de plus, ne résolvent rien. Donc, ce qu'on dit, oui, il faut apaiser, il faut calmer, il faut mettre à distance les marchés financiers et il faut reprendre des chemins de croissance soutenables, y compris écologiquement soutenables, bien entendu.
Ouais. Je vous remercie. En fait, finalement, c'est bien les leçons du G20 hein, qui n'ont pas été tirées. On avait promis de la refonte du capital. Et puis finalement,
voilà.
On est reparti.
L'annonce
dans
de la refondation du capitalisme se traduit par un renforcement du néolibéralisme. C'est clair que le G20 a annoncé des choses tout à fait contraires à ce qui est en train de se passer.
Je vous remercie de vos explications. Je rappelle le site de notre site internet du collectif des atterrés, www.atterrés sans accent hein, et avec un s.org. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors voilà, la journaliste donc de TV5 m'en a donné l'adresse du site. Alors franchement, faut pas vous priver d'aller y voir, parce que c'est une mine. Alors sur le constat, c'est un peu flippant, parce que voilà, ils sont tous d'accord, hein, en tous les cas ceux qui participent de ce collectif, sur l'impasse dans laquelle on est engagé au niveau des décisions et des politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Maintenant, l'avantage des économistes atterrés, c'est qu'ils sont force de proposition. Et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle il faut aller voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Parce que c'est comme ça aussi que finalement les évolutions sont possibles. C'est en étant convaincu qu'il y a d'autres formes de politique qui sont un peu à mener. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une sorte de matraquage, de pensée unique. Et c'est bien, à mon sens, un des grands problèmes de, non seulement de la campagne, mais plus globalement de ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui.
En plus, ils sont très accessibles, je trouve. C'est-à-dire que moi, j'ai compris des trucs dans ce qui vient.
Exactement, exactement. Ariane.
Moi aussi, j'ai compris ce qu'il a dit.
Mais
oui, ça me fait rigoler ce qu'il dit.
Ça te fait rigoler ce qu'il dit ?
Ghislain, oui. Non, sinon, ça me déprime. Hein, mais voilà.
Pourquoi ?
Parce que, comme tu dis, c'est un discours qu'on n'entend pas suffisamment et pas dans les sphères où les décisions peuvent réellement être prises, au moins actuellement. Donc, ça... C'est aussi pour ça que les campagnes présidentielles et législatives sont assez sont dramatisées sur le plan médiatique, mais il y a vraiment un enjeu important, quoi.
Et donc c'est peut-être bien justement d'aller voir ce genre de discours et de ensuite, à l'heure du choix, de regarder ce que nous racontent les candidats au niveau économique.
Tout à fait.
C'est pour ça que moi, de ce point de vue-là, le bulletin PS, de ce point de vue-là, il ne me semble pas être un vote utile.
Ah oui, non, c'est clair. De ce point de vue-là, ouais, c'est clair.
De ce point de vue-là, pas forcément. Après, voilà. Il faut mettre en perspective aussi, peut-être, parce que ça, là, on l'a pas encore fait. C'est vrai qu'on a évoqué le vote utile la semaine dernière. Après, l'avantage, peut-être, ou en tous les cas, de voter utile au présidentiel, c'est que derrière, il y a des législatives qui se présentent et on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont faire ce choix-là stratégique de voter utile, c'est-à-dire éventuellement PS au premier tour des présidentielles, en se disant que, quelque part, il y aura un troisième tour, en l'occurrence les élections législatives, pour peut-être voter d'autres partis, verts, voire ailleurs. Non, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Ça permet de nuancer le truc.
Mm-hmm. Moi, ce qui m'enquiquine là-dedans, c'est que quand on le présente comme ça, quand on se trouve à débattre avec des gens, on va te répondre justement, bah, de toute façon, évidemment, il va y avoir des circonscriptions ici ou là, puisqu'il y a des accords. Mmh. Il y a des accords. Et on se retrouve, moi, ça me replonge dans les histoires de querelles d'appareils, où on a des gros appareils qui sont là pour présenter un candidat à la présidentielle, et on se demande ce qu'ils font d'autre. Et ce côté stratégique et tout, moi, ça me donne une vision de la politique qui, pour moi, est détestable. Mmh.
Alors, mais pourtant, oui. le côté stratégique fait partie de la politique. En fait, tu l'apprends en côtoyant un petit peu. Ils sont uniquement là-dedans. Enfin, il y a, j'allais dire, le côté naïf, entre guillemets, que moi, j'aime bien et que j'espère encore avoir un petit peu sur... On vote pour les gens par conviction, parce mm-hmm. qu'ils portent des convictions et tout ça. Il y a un moment, il est... C'est pas celui-là qui doit guider le choix, quoi, qui doit... Enfin, si tu veux, la stratégie, il y a toujours un moment où la stratégie, elle revient en force et je veux dire, t'es obligé de faire des compromis.
Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on n'est pas obligé d'en passer par là parce que, bon, a priori, la révolution, c'est pas pour demain. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité... Ben, je ne la vois pas venir, en tous les cas, hein, même s'il y a des mouvements alternatifs, effectivement, qui sont là, présents, qui se transforment. Pour autant, voilà, ça va... Je ne l'imagine pas... j'imagine pas un renversement du jour au lendemain du pouvoir politico-économique. Maintenant, ce qui m'intéresse, notamment dans des mouvements comme celui des économistes atterrés, c'est que, encore une fois, ils montrent une voie, ils ouvrent une perspective et ils l'ouvrent concrètement avec, encore une fois, des propositions. Donc c'est déjà quelque chose qui peut impulser une dynamique. Alors après, effectivement, il y a peut-être... la nécessité d'être stratégique à plus ou moins court terme, tout en imaginant que derrière, il y a d'autres ouvertures, d'autres possibilités.
Je comprends la logique stratégique, mais remettre à plus tard, il y a un moment où le plus tard, est-ce qu'il va se présenter et
on verra. Est-ce qu'on sera là pour voir ça? On se demande. C'est la fin de l'émission. C'est la fin du cycle politique et on se retrouve au mois d'avril.
On prend les vacances, là, ça suffit. Hein.
Ça marche.
Au revoir.